bonsoir, bienvenue dans ce quatrième épisode des chroniques de Beyond the Spiritual Spirit.
Bonsoir Pierre, comment vas-tu depuis la semaine dernière?
Je vais merveilleusement bien.
Est-ce que tu t'en es remis de ce petit débat sur la Dacia Logi?
Jamais, je ne m'en suis pas remis, je suis toujours dans la même sensation. Vous observerez d'ailleurs à quel point nous sommes homogènes.
Homogènes comme Zoé, la Renault Zoé, qui était une des premières du classement.
Tout à fait. Merveilleux, Benoît, on pourra se recycler dans... Non, d'ailleurs, on ne pourra pas.
Donc, sur Autoplus, il cherche sur Autoplus. Un poste.
Il cherche des humoristes. Donc, on est là ce soir pour la traiter du Salon de Genève et pour la deuxième partie de ce palmarès, là où on va donc évoquer le meilleur du pire et surtout le pire du pire, puisqu'il s'agit des 5 voitures. J'avais dit 6 la semaine dernière, mais c'est parce qu'on se réserve en fait le droit, petite licence poétique vis-à-vis des véhicules qui nous ont déplu. J'en rajouterai d'ailleurs, donc on en aura bien 6. On va commencer ce palmarès du moins bon avec la 5e place, non pas, c'est pas un podium à 5 places, mais de la 5e place donc de ce classement, avec une voiture qui aurait pu être une bonne voiture, une bonne surprise, mais malheureusement qui déçoit beaucoup.
Un rendez-vous moqué, je dirais presque, Pierre.
Oh, tu vois,
non, tout à fait. Non, non, mais je propose de débuter cette révélation avec un tout nouveau segment qui provient du constructeur turinois avec la Fiat 500. Elle.
Ta déception, je l'entends déjà, est à la hauteur de la côte d'amour de la Fiat 500. C'est-à-dire qu'en fait, on attendait beaucoup et on tombe très bas.
Effectivement, Pierre, on ne retrouve absolument pas le charme de la petite Fiat dans ce break entre deux eaux. Pas excitante, ni très fidèle à l'esprit de la Fiat 500. Cette version gonflée de partout, à vouloir se placer sur tous les terrains ou imiter la concurrence, parce que pour moi, c'est une copie de la Mini Countryman.
C'est vrai que je le vois aussi.
Ouais, tout à fait. Vraiment, c'est vraiment pas forcément une bonne idée. On attendait énormément de cette grosse Fiat 500 ou cette Fiat 500 break. Et déjà, nous, on l'appelait, je sais pas si tu te souviens de cette voiture, mais avant les années 70, la Fiat 500 avait un petit break qui était vraiment très, 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 très drôle, qui s'appelait en italien la jardinière, en fait. Et on attendait véritablement un petit...
Néo-gardiniera, je crois que tu m'as dit.
Voilà, une néo-gardiniera, voilà, on attendait véritablement ça. C'était vraiment, sous le nom italien, une petite Fiat 500 avec un style break de chasse, entre guillemets, qu'aurait pu faire, pour moi, c'était certain, faisait un carton et ça aurait permis véritablement de renforcer l'image de Fiat et de 500. Mais là, je pense que c'est un rendez-vous moqué parce que la nouvelle 500L, elle brouille totalement le discours et l'image, à la fois entre une grosse Fiat 500 un peu gonflée aux hormones, une Fiat Panda qui sort en même moment. Pour moi, c'est Velsati, c'est Avantime, c'est exactement la même chose. Les gens vont s'y perdre.
Bon, là, en fait, tu viens quand même de l'avoir sous les sunlight du Salon de Genève, donc t'es encore sous le coup de l'émotion et d'une attente qui n'a pas été satisfaite ou qui n'a pas, en tout cas, rencontré la concrétisation espérée. Il faut attendre quand même de l'avoir en vrai, peut-être pour la condamner définitivement. Mais pour moi, c'est vrai que j'ai tendance à te rejoindre, on est quand même dans la pâle copie. Et puis c'est vrai qu'on a l'impression que... Je pense que ça parlera à certains qui ont déjà fait du mapping. Le mapping, c'est plaquer une skin, une image, un tableau, une photo sur une surface en 3 dimensions, parfois vulgairement, ben on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a plaqué sur un espèce de tu sais, d'ailleurs c'était le Fiat 3 places...
Le multiplat.
On a plaqué sur un petit multiplat.
Exactement.
Une image de Fiat 500 et c'est vraiment pas sexy.
Ouais, tout à fait.
On va arriver à la 4e place, on aborde la 4e place de ce podium, donc de ce classement, avec une voiture que moi j'attendais pas là, parce que je rappelle que ce classement est quand même le fait est sous la licence absolue et l'autorité de Benoît. Alors ouais. Pourquoi cette 4e place à cette voiture là?
Non mais tout à fait, mais moi je viens de prendre ma carte chez Eva Jolie. Donc du coup, pour moi maintenant, c'est du diesel, c'est de la berne, du monospace de base et de la voiture électrique.
Sort de ce corps.
Voilà, exactement. Non, et là en fait, oui, tu as pas annoncé ton nom, mais c'était l'Audi RS4 avant.
Ouais, voilà. Hein? Je la voyais pas là, moi, je l'imaginais pas là.
Bah oui, non, mais en fait, qu'est-ce que j'ai reproché sur cette voiture? Bah en fait, pas grand-chose, si ce n'est qu'esthétiquement, il n'y a pas de surprise. Les ailes gonflées qui rappellent vaguement la RS6 précédente, les narines qui évoluent légèrement dans leur dessin avec l'apparition d'ouvertures supplémentaires à l'extrémité du bouclier qui me rappelle vaguement une nouvelle Ford Focus RS avec cet impendice que je ne trouve vraiment pas beau, alors que Audi, au niveau des impendices aérodynamiques, c'est eux qui lançaient toujours une mode à ce niveau-là, et ensuite tous les constructeurs suivaient derrière, et là c'est absolument pas beau parce qu'ils copient véritablement la Ford Focus RS. Bref, Bon, elle est là où on l'attendait, c'est-à-dire, bon, bah, sans surprise, quoi. Moi, ça devient une habitude chez Audi. Je suis vraiment déçu, mais je parle uniquement du niveau esthétique, parce que Audi nous avait vraiment habitués à quelque chose de moins timide et de beaucoup plus viril dans sa gamme RS. Rappelle-toi, lorsque la RS2 est sortie, hein, ils avaient sorti des chaînes des Audi 80 avant, c'était des
Oui.
S. S2, Audi 80 S2, ils les
Tout
ont
à
emmenés
fait.
sur les chaînes de production de chez Porsche et ils ont sorti des voitures magnifiques. La première Audi RS4 sortie de la première carrosserie d'Audi A4, mais c'était une bête de guerre, même à l'arrêt, la voiture était bestiale, agressive. L'avant-dernière Audi RS4, et là on a quoi? Une copie de Ford Focus ST. Et à la fois sur les photos de presse et à la fois en vrai. Elle est décevante et c'est pour ça que pour moi, elle est au quatrième sur le classement de mon bas de classement.
Ok, bon, on va quand même livrer quelques chiffres bon, qui intéresseront pas grand monde. On est à 450 chevaux, un 0 à 100 assez logiquement sous les 5 secondes, et une voiture effectivement qui, même au niveau des chiffres, finalement fait le strict minimum. Hein. On peut
Ouais,
pas,
non, non.
à 5 ans de distance, puisque là, je crois même à 6 ans de distance, puisque ça date de 2006, hein, l'ancienne RS4, on pouvait s'attendre, on pouvait pas s'attendre à moins que 30 chevaux supplémentaires. Donc, effectivement, pas une voiture. Qui nous subjugue, d'autant qu'en plus, moi, pour avoir passé la semaine dernière 2 jours dans une S4 et après avoir fait un retour dans une Audi A4, déjà que la S4 ressemble beaucoup à l'A4,
Non,
on
non,
peut
c'est...
dire que la RS4 pêche beaucoup par sa stricte conformité ou sa ressemblance un peu trop affirmée
Alors,
avec
est-ce que
la
c'est un
S4.
message des designers et du marketing de chez Audi qui va peut-être annoncer, parce qu'en général, les RS arrivent toujours lors de la fin de vie des modèles de leur gamme,
Ouais,
la
mais ça change
RS4,
ça. Ça
ceux-là?
change, Benoît.
Bon, ça
Sans
change un
vouloir,
petit
c'est pas,
peu,
on n'est pas
bah,
dans un
la
débat
RS...
aujourd'hui, mais on voit, regarde, on voit bien que les versions AMG sont
Non, non, non,
systématiquement
on parle d'Audi.
présentées. Non, j'ai
On
bien
parle
compris.
d'Audi, on parle
Mais
d'Audi. La
regarde,
RS3 est sortie
la
à la
M.
fin de vie de l'Audi A3.
C'était une généralité, Benoît. On
Attention aux
fait.
généralités, c'est
Attention aux généralités, j'observe simplement. C'est une généralité qu'on observe dans tous les départements sportifs des gammes premium des constructeurs allemands, que ce soit Audi, que ce soit Mercedes, que ce soit BMW. C'est vrai ce que tu dis, enfin c'était vrai, ça ne l'est plus.
Alors,
La
quel est le premier
M5,
modèle? C'est la première.
l'exemple, regarde la série 5. La M5 est sortie dans la première année de
Mais la M5
commercialisation.
est toujours sortie
Non.
pratiquement dans la première année des commercialisations de la série 5,
Bah,
je te
je te
garantis.
donne un contre-exemple, je peux te donner des tas de contre-exemples. J'adore qu'il y ait débat et
Et
qu'on ne
bien
soit pas d'accord.
ça commence. Non,
Mais
sincèrement,
non,
ça a
mais
toujours été les voitures
ça se
super
rapproche.
sportives des segments des généralistes ou des marques premium Audi, Mercedes et même Ferrari qui sort une 599 GTO
À la
à la
fin de
fin de
vie, pour
vie
lui donner un
de
second
ex
souffle.
exact
Mais oui, mais
exactement.
ça change,
Et
ça
voilà.
change.
Et moi, ce qui me laisse à dire que là, l'Audi. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas vu, mais
Non, mais ça
j'attends de voir.
change,
Mais voilà,
Benoît.
j'attends de voir. Mais la RS3 qui est sortie, la fin de vie de l'Audi A3 avant-garde, il y a pas mal de modèles comme ça, c'est la fin de vie. Là, la nouvelle Audi A4 vient de sortir. Ils viennent de présenter l'Audi RS4. Peut-être qu'ils vont présenter durant la vie qui dure à peu près 4 ans, 5 ans, avant un restyling ou ça, d'une voiture
Benoît.
de chez Audi, peut-être la RSR
Peut-être la
maintenant.
RSR, peut-être, en tout cas, peut-être qu'on ira encore plus loin, et ça, c'est vrai qu'on est dans la surenchère des acronymes compliqués. On parlait tout à l'heure de RSRR pour arriver à peu près au niveau, RSRRR pour arriver à avoir une voiture qui serait suffisamment agressive par rapport à nos attentes. Mais de manière générale, et là, c'est sympa, effectivement, puisqu'on est quand même dans une émission où on va se dédier à quand même des informations pures et dures. Petite digression, observons que la 911 Turbo type 991 sortira un an. Après la révélation du modèle de base, ça n'est jamais arrivé. Observons que par exemple la nouvelle série 6, la version M6, sort quasiment 7 mois après les premières livraisons des véhicules aux clients, ça n'est jamais arrivé. Chez AMG, on livre la SL en version AMG et disponible immédiatement après la révélation de la voiture. Donc, les modèles sportifs sont dorénavant systématiquement intégrés dans les line-up des constructeurs, parce qu'on sait aujourd'hui que les consommateurs haut de gamme, le premium se renforce, et les consommateurs, il y a de plus en plus de consommateurs sur le premium très haut de gamme, hein, c'est à l'image de la société. Donc, même si on roule pas très vite, on achète et on consomme de l'image sportive. C'est là que nous on fait notre boulot de journaliste à Beyond the Speed of Spirit avec une étude un peu sociologique. Puisqu'avant, effectivement, ces modèles-là, ils étaient un peu à la lisière des constructeurs. C'était un coup de force, c'était un pari, c'était une signature de l'esprit sportif des constructeurs. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus marketing. Ça va d'ailleurs emmener et générer pas mal de réflexions qu'on pourra avoir vis-à-vis de ces véhicules. Et typiquement, ce véhicule qui sort dans un timing un petit peu questionnable vient lui aussi finalement nous poser d'autres questions puisqu'il il rencontre pas nos attentes. Mmh. Enfin, nos attentes ne rencontrent pas ce qu'ils espéraient.
Bon, c'est
il se passe quelque chose généralement d'un petit peu problématique à cet égard. Bon, désolé pour cette longue digression.
Non, mais c'est vrai que la RS4 là est un peu décevante. C'est un moteur de RS5. Le design est d'une platitude absolument. Et pour moi, ça n'était pas digne des RS4 qui avaient initié la RS2. La RS4,
ouais,
c'est elle qui avait initié le mouvement. Et là, on arrive dans un modèle qui se noue au milieu de la gamme. Quoi. Donc voilà. Donc un peu décevant. Et pour moi, donc c'est la quatrième marche du podium. Mais je crois que là, bientôt, nous allons arriver à la troisième marche du podium.
La troisième marche du podium avec une surprise. Une surprise d'ailleurs, je ne peux pas t'emboîter le pas. Je respecte ce classement qui est ton classement et qui est donc le nôtre. Mais j'aurais beaucoup à dire puisque la voiture qui occupe cette troisième place, c'est la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Alors on va une toute petite explication de texte avant que tu ne nous expliques, qu'on livre cette voiture à Tégémonie. La Bugatti Veyron 1000 chevaux pour vraiment les ignares. Qui par hasard écouterait cette émission. Grand sport vitesse. Alors grand sport, là on est dans la version découvrable de la Bugatti et vitesse. Parce qu'en fait c'est simplement la grand sport version super sport. La super sport étant la version 1200 chevaux de la Veyron. Comment, mon cher Benoît, as-tu fait pour mettre à la troisième place de ce palmarès une voiture qui est la découvrable la plus rapide du monde avec pas moins de 400, plus de 420 km/h officiellement, enfin 435 km/h sur circuit, si on considère qu'elle a été essayée sur le circuit sur l'Oval en Allemagne de Bugatti, de Volkswagen.
Chez Volkswagen.
Comment tu oses sanctionner cette voiture pareillement?
Mais c'est limpide, Pierre. C'est vraiment limpide. Regarde, rien que d'écouter le nom de la voiture que tu viens de citer, Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. C'est-à-dire que maintenant, l'intitulé de la voiture qui sort, il y a cinq noms qui suivent, il y a quatre noms qui suivent la marque de la voiture. Le concept car quasi définitif de la Veyron est apparu au début du siècle. D'accord ? Hein, on en a vu des protos passer sur les salons. Toi ou pas toi, 200 chevaux de plus, 200 chevaux de moins, combinaison de couleurs inédite ou pas, moi je commence sincèrement à trouver le temps long, à trop se décliner, la Veyron ressemble de plus en plus à Jennifer Aniston.
Pourquoi Jennifer Aniston?
Ouais, Jennifer Aniston, pour moi c'est une actrice quarantenaire qui refuse de quitter les rôles de teenager. Le besoin d'écouler la fin de production de la Grand Sport réduit Bugatti à des artifices de plus en plus téléphonés et pas très dignes du mythe moderne qu'est la Veyron. Il est pour moi vraiment temps de passer à autre chose. C'est le syndrome de Sergei Bubka. Bubka, qui est un athlète russe, le champion au monde du 100 en hauteur, qui gérait sa progression de centimètre en centimètre, parce qu'il y avait tout ça. Ils ont trop de voitures sur les bras, ils gèrent le truc, ils auraient très bien pu, pour moi je suis persuadé qu'il y a déjà plus de 5 ans qu'ils auraient pu sortir cette voiture-là, mais non, ils gèrent ça vraiment pour vraiment prendre, ils prennent les clients, même aussi légitimes qu'ils soient, pour des gogos, et moi ça me fatigue maintenant.
D'accord, on est d'accord.
Donc la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, là ça y est, elle a atteint les limites possibles, et là ils sont en train de tuer le mythe.
D'accord, on est en train de faire, tu fais référence aux présentations à répétition de Bugatti Veyron en série spéciale, qui était ni plus ni moins
sans noir, oui, sans ce que bleu, tu veux, noir, machin, avec des
Hermès,
coloris, des machins, enfin de tous les
qui
trucs,
était en fait, qui étaient en fait des versions de commande. C'est-à-dire en fait, ça revient à dire qu'à chaque fois que Bugatti vend une voiture sur mesure ou tailor-made à un de ses clients, elle la présente sur un salon et elle vend ça comme de la nouveauté alors qu'il ne se passe, il n'y a rien de neuf sous le soleil.
Bien sûr. La Grand Sport était super, il a lancé. Pour moi, c'était l'ode à son départ. Et on passait à autre chose. Et après, la Bugatti Galibi apparaissait, quelque chose arrivait. Bon, c'est vrai que la crise économique faisant, il y a des trucs comme ça. Mais les gens riches n'ont jamais été aussi riches. Bugatti, Volkswagen n'a jamais eu, a été au summum de son zénith. Pourquoi il n'accélère pas la production d'un nouveau modèle? Là, ça commence à être long.
Ça c'est une vraie question. Là, ce sera un autre débat qu'on ouvrira, qui sera celui. Moi, j'ai une autre question. Pourquoi une Bugatti Veyron 1000 chevaux? On sait quels sont les coûts qu'a absorbé Volkswagen et Bugatti pour créer la Veyron. On sait ce que ça coûte véritablement cette voiture. Pourquoi une Bugatti Veyron ça coûte 1 million d'euros? Pourquoi une Bugatti Veyron super sport qui fondamentalement ne change rien à la donne et qui, quand on la découvre avec deux options à la moins moelle nœud, coûte 2 millions d'euros. C'est-à-dire, vraiment, il y a du génie et de la générosité dans le fait pour Bugatti d'avoir proposé cette voiture à ce prix-là, mais on voit bien, là pour le coup, qu'aujourd'hui, on est prêt à vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. J'avais déjà désigné à la vindicte de nos auditeurs la 077 de Aston Martin, qui est pour moi une vaste blague. C'est pas parce qu'on se fait plaisir et qu'on se paluche, excusez-moi, dans un grand garage, certes en Angleterre, et qu'on dessine une voiture et qu'on se fait filmer par des Canon 5D Mark II à l'appel autour de soi avec des grandes musiques livresques et romantiques en expliquant qu'on a voulu se faire plaisir et qu'on sort une bagnole à 750 chevaux. Bah, ça y est, c'est foutu. Maintenant, il y a la Berlinetta F12 qui est là. C'est exactement le même problème que la SLR qui avait rencontré la Fiorano. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les constructeurs considèrent, enfin, surtout les constructeurs premium, balancent n'importe quoi à n'importe quel prix et prennent effectivement les consommateurs haut de gamme et les clients fortunés pour des abrutis sans nom.
Je suis d'accord avec toi, donc là je vais être en contradicteur alors que tu me rejoignais dans mon débat, si tu veux, en quelque sorte, mais à partir du moment où il y a des gogos entre guillemets qui sont là pour acheter, ils auraient tort de s'en priver. Sauf que Bugatti, là, ils vont au-delà du point que tu soulèves, en fait. C'est qu'il y a une voiture qui existe depuis plus de 10 ans, ils continuent à vendre les autres. Aston Martin, ils ont quand même, faut le reconnaître, la qualité et le talent d'avoir sorti une voiture totalement exclusive et nouvelle, même à 77 exemplaires. C'est une fumisterie, mais c'est des voitures quand même exclusives. Bugatti, ça fait 10 ans qu'on la voit sur les salons.
C'est vraiment un débat. Ce serait pas un Beyond the Suit of Spirit Chronicle si il n'y avait pas un débat qui grassement dérivait. Mais là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout parce que l'Aston Martin 077, qu'est-ce qu'elle veut dire ? On est dans le tailor-made.
Tout est innovant.
Non, mais on est dans le tailor-made. Ouais. Le tailor-made, celui qui a inventé le tailor-made moderne et qui l'a fait en inventant une voiture sportive qui est vraiment la signature d'une intention, d'une volonté et qui a complètement rempli son pari, c'est Horacio Pagani. Il y en a un. Maintenant, Aston Martin qui balance une voiture à 1 500 000 euros, qui n'a aucune espèce de crédibilité sportive. On a vu des images, tu posais la question la dernière fois, est-ce que cette voiture existe bel et bien, est-ce qu'elle a été livrée ? Elle a été livrée. On a des exemples de pauvres types qui essaient de faire une marche arrière devant George V. Ce ne sera pas les premiers, ce ne sera pas le dernier. Ça sera toujours le même problème. Et donc, on a une bonne pauvre boîte de vitesse à convertisseur de couple à la con. Enfin bref, excuse-moi, je suis désolé, je suis vulgaire, mais non, c'est insoutenable. C'est insoutenable, et puis on prend les gens pour des demeurés. On prend les gens pour des demeurés parce qu'elle a des espèces de joues béantes devant. Elle est belle, mais elle est juste, voilà, elle est juste superlative. Et à 1 500 000 euros, on est en droit d'avoir plus qu'un bon concept marketing qui remplit toutes les cases.
Tout à fait.
Et l'Aveyron,
Bugatti,
et c'est pour ça.
Bugatti, franchise,
quand même. T'as mis l'Aveyron en troisième place d'un podium, du classement du pire. Du pire. Et l'Aveyron, c'est quand même la voiture qui a fait que dans l'ordre des choses et dans notre environnement, dans la culture générale, est rentrée l'idée qu'on pouvait dépasser les 400 km/h.
Je ne parle pas de la Bugatti Veyron. Je vais parler de la Bugatti
Veyron,
grand
sport,
rapide,
vitesse.
Voilà,
tu vois,
pas la rapide, ouais,
petit
c'est
glissement. Bon, petit exemple, on dit que ça prend le d'un autre débat. On voit bien que, en tout cas, le segment du premium très haut de gamme à très grande vitesse avec un grand renfort de chevaux est en train de sérieusement vivre une post-adolescence compliquée.
Tout à fait.
On arrive à la deuxième marche du podium et là, on a une voiture là où je te rejoins là, beaucoup plus volontiers, beaucoup plus facilement. Là, c'est la nullité crasse, la laideur, le manque d'inspiration, la faiblesse, la fragilité, la fragilité, la petitesse, la médiocrité, le raccourci dans toute sa splendeur. On parle de la Lancia Flavia Cabriolet. Elle a un nom lamentable et pourrissime.
Pourtant, Flavia est un nom qui ressort d'outre-tombe de l'histoire mythique et légendaire de la marque Lancia, justement.
Ça pourrait faire une bonne voiture pour Benjamin Castelli, une Flavia Cabriolet. Petite voiture blague pourrissime.
Attends, pour une fois, je sais quelque chose sur la télévision. Ouais, surtout qu'ils sont divorcés depuis 5 ans, mais bon. Alors, je vais faire vite, hein, parce que je pense que ce modèle-là ne mérite pas plus de 30 secondes sur le podcast de Beyond the Speed of Spirit. Donc, bon, même si on commence à s'habituer au grand bal, au travesti des marques de Sergio Machione, donc Sergio Machione, qui est le grand patron de Fiat, qui a sauvé plutôt Chrysler. Moi, pour moi, ça a toujours de plus en plus de mal à passer, surtout quand il s'agit, donc je dis, de recycler un nom chargé d'histoire comme Flavia pour en affubler une Chrysler anonyme en fin de carrière. Moi, lors de la présentation, ils avaient un discours entièrement dédié au style à l'italienne pour un cabrio. Je te rappellerai, tu m'en as parlé tout à l'heure en rantaine, c'est le cabrio quand même préféré des agences de location américaines.
Hein, la Chrysler, ouais. C'est la Chrysler Sebring. Moi, j'ai petite anecdote, je me suis fait une petite traversée du grand Ouest américain avec mon cousin il y a une dizaine d'années avec Chrysler Sebring, l'ancienne.
Exactement.
Et je ne savais pas quand tu m'as présenté cette voiture qu'il s'agissait de la Chrysler Sebring et j'ai pas pu m'empêcher de dire.
Maintenant, c'est plus une Chrysler Sebring, c'est une Lancia Flavia. Et à la présentation presse, vraiment, j'y mettais en avant le style à l'italienne, alors que c'est vraiment un cabriolet américain de base avec tous les plastiques recouverts un tout petit peu d'une fine couche de cuir, mais c'est à pleurer quoi. Donc pour moi, c'est vraiment pousser un peu trop loin la fusion Lancia Chrysler. Ils espèrent vraiment en vendre avec un 2,4 litres boîte auto.
Moi, boîte auto.
Je suis vraiment loin du coup de foudre. Et vous aussi, j'espère, cher auditeur, parce que sinon, je vous conseille de changer de crèmerie très rapidement.
Voilà, on vient de perdre notre auditeur sur deux qui avait le malheur de la trouver presque convenable, ce qui va nous amener sans transition à la première place du podium. Là encore, c'est un consensus. Je n'aime pas le consensus, mais parfois il s'impose. Qui va à la Bentley EXP9F. Tu le disais très bien, on avait fait un article la semaine dernière, c'est toi qui le signais, où tu disais que effectivement le nom était à l'image de la voiture, c'est-à-dire totalement dépourvu d'inspiration.
Alors la pierre, on est sauvé. Il ne s'agit que d'un concept. Les autres que je t'ai présentés précédemment, c'est des voitures qu'on va véritablement voir dans la rue. Là, pour l'instant, c'est un concept. Donc, du coup, ils se sont arrêtés juste avant, quoi. Non, mais là, par contre, c'est un coup de tonnerre. Ça se fait de plus en plus souvent. Mais à la direction du groupe Volkswagen, on a très, très mal digéré l'accueil qui a été fait au grand SUV de Bentley, qui n'a pas, convenons-en, un physique facile, pour ne pas dire simplement séduisant ou avenant. Moi, à croire que le très grand luxe et SUV ne se font pas bon ménage, parce que la Bentley EXP9F, c'est pas la première à s'être fait black bouler au salon de Genève. Je rappellerai qu'il y a eu
trois petits tours et puis
il y a eu le SUV Lagonda qui a été présenté l'année dernière, qui était mais une honte absolue au design moderne français, européen. L'Aston Martin Lagonda, ils sont repartis avec, ils l'ont mis dans les cartons, ils n'en ont plus jamais reparlé. La Maserati avec le Cubang était véritablement une catastrophe.
Bon, c'est vrai qu'apparemment, ça n'a pas l'air si facile de faire un SUV de luxe qui n'a pas l'air d'un tank. Et tu dis, on parle de tank parce que forcément, le premier SUV de luxe, c'était le LM002 de Lamborghini.
Qui était un tank.
Qui était un tank
qui avait été développé pour l'armée saoudienne, je crois.
Saoudienne, oui, tout à fait.
Exactement. Puis ils n'ont pas osé la commander non plus, tu vois, c'est vrai. Non, mais moi, juste pour dire, là, ce n'est pas uniquement un parti pris de Benoît. Hein, je vais te citer juste quelques verbatim que j'ai relevés lors de la présentation sur le stand anglais. Affreux. Donc là, c'est entre guillemets affreux. À vouloir aller sur tous les terrains quand on n'est pas fait pour ça, ça ne marche pas. La face avant est indigeste. Bentley fait passer une Cayenne première phase 1 pour un truc élégant. Un ratage total à croire qu'il s'agit d'un acte conscient de rébellion à Crewe contre l'idée imposée de l'extérieur d'un SUV Bentley. Bon, pour moi, les réactions sont aussi mauvaises que Bentley s'est dépêché, et ça, c'est quand même nouveau, de le faire savoir avant même la fin du salon. Hein, donc, la même excuse pour la Lagonda, même truc, mais là, ils ont été encore plus rapides que les autres. Donc, ils ont fait savoir qu'il ne s'agissait pas du design définitif et que le style allait être affiné avant sa commercialisation.
Bon, alors justement, c'est toute l'ambiguïté de la chose et du procédé. Pourquoi, dans ce cas, l'avoir mis sous les projecteurs des halls de Genève?
Non, mais ils ont tenté le coup. Non, c'est un ratage total. Et là, je tire mon chapeau à Cara Disiak, d'ailleurs, je crois. Cara Disiak ou Blog Auto, nos concurrents et amis et confrères, où un de leurs lecteurs a carrément proposé, sur la base des sketchs, des croquis des designers de chez Bentley, il a extrapolé la version sexy de ce que devrait être le futur SUV Bentley, qui immédiatement en deux trois coups de crayon prendrait vraiment une dynamique et serait là, serait
et renverserait les réticences qu'a pu soulever le XP9.
Exactement.
Le XP9F, donc encore.
Donc voilà le podium. Voilà le bas de podium des 5 modèles à totalement oublier. Alors je te passe, mais là c'est, on n'est plus chez les constructeurs, mais je te passe les modèles que j'ai pu voir chez Mansory, qui sont une horreur absolue. Une Bentley, si tu la trouves trop élégante, bah, tu l'as confiée à Mansory, il va t'arranger le coup tout de suite pour te pourrir une caisse qui coûte plus d'un million d'euros. Enfin, une fois que tu l'as repris chez Mansory.
Comme quoi la vulgarité ça coûte cher.
Ça coûte cher et pire c'est que ça s'achète, c'est-à-dire que toutes les voitures du stand Mansory, et c'est vrai ce que je te dis, étaient achetées à l'issue du 3 jours d'ouverture du salon. Tous les modèles qui étaient exposés chez Mansory avaient tous été
sont tous partis.
Donc Sbarro, Franco Sbarro, que j'ai eu l'immense chance de rencontrer il y a maintenant un peu plus de 10 ans, là a refait une sombre daube sur une base de Ferrari GTO, donc une copie, une pâle copie, mais qui était à pleurer. Enfin voilà, donc il y a eu beaucoup d'horreur aussi et tout ça. Donc je te passe pas parce que ça c'est plus des préparateurs, des petits artisans locaux si tu veux, mais voilà. Donc pour moi voilà le palmarès de ce qu'il faut oublier très rapidement sur le salon de Genève et le Grand Cru de Genève 2012.
D'accord, on vient donc de voir le meilleur et le pire de Genève. Bon, il semblerait que d'autres voitures se soient distinguées dont on a envie de parler, qui se relèvent des inclassables.
Oui.
On va d'ailleurs les évoquer après une petite pause, Benoît. On se retrouve tout de suite.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Benoît, nous voilà de retour pour traiter des voitures qui ne relèvent pas des classements qu'on a évoqués, qu'on a cités tout à l'heure, avec donc les inclassables. Tu as relevé un certain nombre de véhicules donc,
oui,
voilà, qui sont marquants.
Qui ne sont pas dans le classement, mais qu'il faut évoquer quand même sur ce cru 2012. Alors en parlant d'évoquer, je te propose le Range Rover Evoque convertible concept qui est plutôt pour moi plutôt audacieux, alors qui n'est qu'un concept pour le moment. Qui dit convertible dit cabriolet. Donc c'est la proposition décapsulée du Land Rover Evoque qui est déjà dans les beaux quartiers à la fois bordelais et parisiens un best-seller. La version cabriolet prend vraiment actuellement la température, a pris la température parce que ses portes ont fermé dimanche, du côté du salon de Genève avant, qui sait, de recevoir le feu vert du directoire de la marque indienne pour prendre le chemin de la production. Et comme depuis sa dernière apparition publique, l'Evoque découvrable va pas manquer d'alimenter le débat entre ceux qui apprécient l'idée d'un SUV cabriolet et les détracteurs à la fois de l'Indy Lotto. Il y a déjà eu Nissan qui a tenté ça avec sa Murano cabriolet, mais qui est vendu strictement aux États-Unis et qui n'est pas forcément très très beau. Mais là, le cabriolet Evoque, il est totalement inutile, donc indispensable.
Donc, ouais, beaucoup plus convaincant. On pourrait y voir d'ailleurs un écho ou une sorte de reflet, mais là, cette fois-ci, beaucoup moins trouble et beaucoup moins sujet à débat que par exemple la Mini Coupé. C'est-à-dire des voitures dont le concept, dont la mixité, tu vois, à force de métisser des concepts, le SUV break, compact, moyen de gamme, premium, super personnalisable, enfin je veux dire, on est sur cette décomposition des gammes.
La prépondérance du marketing est terrible, quoi.
Ouais, terrible. Donc en fait, on n'arrête pas de décomposer, de scinder les séries.
De rentabiliser à outrance chaque modèle sorti.
Sortir des voitures qui n'ont aucun sens. Parce qu'en fait, la mixité des concepts, elle a une limite. On avait discuté du X6. Et donc, du bon sens consistant à associer un SUV avec un coupé, c'est-à-dire à incorporer dans un concept qui est son anti-concept.
C'est-à-dire
une soustraction. C'est-à-dire, effectivement, un coupé est une soustraction de ce qu'est un SUV par définition.
Ouais, tout à fait,
donc, à une voiture, je vais enlever de l'habitabilité sur les places arrière en ayant toujours un centre de gravité à 1 mètre du sol, ça reste quand même un truc très con. Alors que j'aime bien la X6.
C'est
quelque chose de très bête. Faire une Mini qui est déjà petite et en faire un coupé alors que ça ressemble ni plus ni moins qu'à une espèce de grosse coccinelle et que ça n'a pas du tout la ligne d'un coupé, et même si on peut l'aimer, ça reste un truc totalement délirant. Pour moi, tous ces concepts-là sont quand même fondamentalement des insultes.
Entièrement, je te rejoins tout à fait.
Malheureusement.
Non, mais je te rejoins tout à fait.
Voilà. Bon, une autre voiture qui t'a marqué aussi, donc manifestement, c'est la série 6 Grand Coupé.
Grand Coupé, BMW série 6 Grand Coupé, c'est la méthode allemande, quoi. Hein. Ne jamais être absent d'une niche où se pointe la concurrence. Et là, pour une fois, BMW n'était pas précurseur, parce qu'après Mercedes avec sa CLS, où là, eux ont lancé véritablement un nouveau concept qui ont ringardisé la berline de base. Audi qui a emboîté le pas avec l'Audi A5 Sportback et ensuite qui a sorti l'Audi A7. VW qui a fait sa Passat CC. Bah, voici BMW avec sa série 6 Grand Coupé. Bah, c'est ça, c'est les sirènes du coupé, les sirènes du coupé 4 portes qui ont. Auquel BM n'a pu s'empêcher de céder pour rejoindre, moi je te dis, le rang de tout ce qu'il y avait là-dessus. Bah, on connaît déjà la voiture, mais pour sa première européenne à l'occasion du Salon de Genève, le constructeur nous a révélé vraiment la venue d'une version 640i équipée d'un moteur 6 cylindres de 320 chevaux. Bon, c'est le minimum syndical à Munich, hein, dans une couleur carrosserie qui lui sied plutôt pas mal, avec un marron mat. Maintenant, mat, c'est
très à la mode.
C'est vraiment maintenant très très à la mode. Alors, par exemple, j'ai eu des échos quand même qu'en termes d'entretien, c'était assez compliqué. Il y a un cahier des charges assez ouais, fastidieux quand tu veux entretenir ta voiture. Il ne faut pas commencer à la policher ou à la frotter trop longtemps sur un chiffon, parce que là, tu commences à la polir, la voiture. Donc,
elle redevient brillante.
Ah, exactement. Et BMW a un cahier des charges pour donner une voiture qui te vend mat, qui est assez contraignant quand même. Voilà.
Oui, sachant que là, on fait là encore une petite digression. Ouais. Le problème est plus ou moins résolu, notamment par Smart avec la dernière version, qui est aussi, c'est une des dernières TaylorMade de Smart, qui est une version pareille, le marron métallisé mat. Ouais. C'est marron métallisé mat. C'est quand même incroyable. Là aussi, la contradiction, elle va au bout du concept. On métallise et on matifie après. Mais c'est très beau. Donc là, j'ai rien à dire. D'accord. Mais il s'avère qu'aujourd'hui en surface, c'est un peu le principe aussi de la DS3, DS3, tu sais, Sébastien Loeb de la version
DS3 R,
et ils utilisent en fait une version surfacée. Donc c'est pas vraiment un pur mat, c'est une sorte de vernis satiné, très satiné.
Un effet de mat.
C'est presque mat, mais ça se traite comme une voiture normale, donc c'est vraiment beaucoup moins fragile et beaucoup plus efficace.
D'accord.
Petite remarque de ma part, moi.
Vas-y, mais bien sûr, tu es le bienvenu.
Merci. On vient de le dire tout à l'heure, on est encore on est dans la décomposition, dans l'ultra métissage, donc c'est très très bien. C'est très beau un métis, donc on est tous d'accord pour dire que c'est très très beau. C'est très beau un métis. C'est très beau. En revanche, que la première fois ça nous fasse marrer, tu vois, le mélange asiatique, américain, jamaïcain, asiatique, etc. Par contre, que le mélange de basque, asiatique, corse, mélangé à du sarde et matinée de portugais à la fin,
et une pince bretonnante,
voilà, en t'expliquant à chaque fois que c'est le truc qui explose tout, que c'est vraiment le récipient, la recette qui surplombe, qui défraie la chronique, qui va défrayer la chronique. C'est un peu chiant. La bagnole, c'est un peu pareil. Ça veut dire que là, ça devient complètement dingue. Je pose une question, puisque les gens qui écoutent cette émission, il y en a quelques-uns, on les force, on leur envoie le lien, on leur demande d'écouter, de nous donner un feedback. Donc forcément, même si vous êtes de ces gens-là qu'on a forcé à écouter l'émission, vous nous avez dit à plusieurs reprises, c'est insupportable la complexité de ce que vous évoquez. Et bien moi, je trouve ça dingue, parce que je trouve ça injuste, parce que nous qui incarnons justement cette subtilité, cette expertise sur la chose automobile avec un degré de sophistication et puis de profondeur dans l'analyse qui laisse justement un paquet de gens sur le bord de la route, c'est ce qu'on essaie d'arrêter de faire. Ben là, par exemple, je te pose la question, c'est quoi la différence entre une A5 berline et une A7
La ligne.
Non, la ligne.
Ah oui, c'est ça.
Explique-moi ce qu'apporte, comment est-ce qu'on peut justifier, quand on a un grand constructeur à succès, de sortir une A7 quand on a une A5
Sportback 4 portes, 5 portes, ouais, tout à fait.
Ouais, je n'arrive même pas à comprendre. Ouais. Le concept me laisse quoi? Je peux discuter un concept qui me déplaît, susceptible de critique, mais en revanche, on ne peut pas expliquer la dichotomie, qu'on ait séparé une A5 et une A7. Je ne vois pas du tout l'intérêt.
Oui, non, mais tu as entièrement raison, parce qu'en plus, c'est. Alors à ce moment-là, on peut aller dire quelle est la différence entre une CLS et une classe E, châssis équivalent, 4 portes, peut-être un peu plus de garde au toit.
Il y en a une qui est taillée comme un coupé. Parce que si tu vas par là, on peut carrément. Non, mais là c'est plus compliqué. Chez Audi, il y avait la 6.
Ils ont créé un nouveau segment.
T'as la 6 et la 5.
Deux voitures qui ont la même fonctionnalité avec.
Encore plus. C'est comme si Mercedes sortait une classe. Une SCLS, quoi. Une SCLS.
Ouais, tout à fait.
Chez Mercedes, il y a une CLS. Il y a une coupé berline.
Ouais, exactement.
Et t'as une classe E qui est une berline. est surplombée par la classe S.
Parce chez Audi, chez Audi, ils ont estimé que leur Audi A5 Sportback n'était pas en mesure de pouvoir contrer la CLS.
Donc il fallait monter en gamme.
Il fallait qu'il monte en gamme et qu'il se différencie de la Passat CC, qui est la Passat CC, et plus en face de truc. Voilà. Mais c'est vraiment.
Pour l'avoir vu sur la route la semaine dernière, la 7 est vraiment tout à fait une belle. Voiture moi, totalement éligible à tirer une caravane. Hein,
Non, moi, elle est pas belle. Mais ça n'a aucun intérêt. Comme je disais, c'est la méthode allemande, ne jamais être absent d'une niche où se pointe la concurrence. Voilà.
Très bien dit. On arrive sur une autre voiture très marquante, forcément, chère à nos cœurs. La Lotus Exige S qui arrive dans une version Roadster, cœur, qui est présentée dans une version Roadster.
Alors bah là, c'est vrai que là, Lotus commence à se faire une spécialité, c'est être là où on ne l'attend pas. Lorsqu'ils évoquaient avant le lancement, avant l'ouverture du salon de Genève, une voiture sans toit, j'étais persuadé, et j'étais pas le seul, j'étais persuadé qu'ils allaient nous présenter une Evora, qui est magnifique comme voiture, une Evora décapsulée.
Ouais.
Mais en fait, c'est une Exige S Roadster, bref, en fait, c'est une Lotus Elise. Donc bon, moi j'ai été surpris par la dénomination. Pourquoi Exige Roadster? Pourquoi pas une Elise? Est-ce que cela signifie que l'Elise qui a été vue au Mondial en 2010 possède un avenir commercial? En tout cas, on a du mal à croire que Danny Barr, le patron de Lotus, aurait eu des scrupules à nommer Elise une voiture de 1100 kg. Donc pour moi, l'Exige S Roadster est peut-être la dernière voiture de l'ère Barr. Là, c'est important parce que c'est sorti dans la presse auto surtout et la presse économique aussi il y a une dizaine de jours. Lotus a été racheté par un consortium qui s'appelle DRB Icom. Ce sont des investissements qui sont gelés pour un mois et ça, c'est la loi malaisienne qui impose ça, qui fait que pour l'instant, il ne se passe plus rien chez Lotus en attendant de savoir depuis leur achat quelle était l'avenir de Lotus. Donc tout est arrêté. Donc le développement de l'hypothétique Esprit est autant retardé que le reste de la gamme qui était il y a 2 ans, qui a été présentée au Mondial de l'Automobile, où c'est la première fois qu'on voyait une gamme entière de 5 modèles totalement renouvelés en une fois. Donc voilà. Donc le patron de Lotus, actuellement, serre un peu les fesses parce qu'il est sur un siège éjectable. La firme d'Etel, depuis son arrivée, a beaucoup dépensé. Les ventes, elles, se sont contractées et c'est pas parce qu'ils font des voitures moins géniales, mais peut-être un peu moins bien dessinées. Donc ça, faudrait peut-être qu'on en parle à Donato Coco, qui était le designer de Ferrari, qui a été nouvellement recruté. Moi, je trouve qu'il était en mal d'inspiration sur la nouvelle gamme Lotus, et notamment la Lotus Elise qui est devenue très très fade. Comme c'est le PDG, c'est lui qui endosse le bilan, qu'il en soit responsable ou pas. Il reconnaît multiplier les allers-retours vers la Malaisie pour essayer de se mettre bien avec les nouveaux patrons, mais pour l'instant, l'avenir est plutôt limite. Donc voici, on vous parlait de l'Exige Roadster S, on va essayer de la mettre en ligne pour que vous puissiez voir ces nouvelles lignes. Elle est un tout petit peu plus musclée et sexy. Un V6 de 350 chevaux, elle atteint les 100 km/h en 4 secondes, mais comme tu le disais tout à l'heure, maintenant ça devient d'une baie d'agilité affligeante. 160 km/h en 8 secondes 5, et elle accélère jusqu'à 233 km/h en version décapotable, ça va être super agréable quand même. Donc voilà, donc et en plus elle émet à peine 230 grammes de CO2, enfin ça on s'en fout chez Beyond the Speed of Spirit, et elle a un petit toit en tissu. Donc voilà, comme d'habitude, il y a une race pack pour s'amuser sur les journées circuit. Lotus n'annonce ni prix, ni calendrier de mise en vente. Bref, ça sent le roussi chez Lotus. J'espère que la marque ne va pas mourir suite à ce dernier et énième rachat. Le marché US n'est toujours pas aussi...
C'est pas aussi réceptif qu'on l'aurait espéré. Si, le marché US est tout à fait à l'ordre du jour avec l'Evora et avec la nouvelle Exige. Mm-hmm. C'est tout le principe d'ailleurs du développement du 3.5 V6.
Oui, mais ils ont annoncé à Genève que que Lotus annonce qu'elle n'y sera pas commercialisée de cette Exige S.
Alors là, voilà, ça c'est une grande nouvelle, chers auditeurs, parce que le coup, si l'Exige S, elle a été complètement revue de fond en comble, puisque c'est toujours la base, c'est l'ancien châssis qui a été rallongé, retravaillé, repris très largement en profondeur, afin de satisfaire aux règles justement. C'est pour ça qu'il y a ces fameux pare-chocs. Je rappelle que l'Exige S, c'est un pare-choc, chose que n'avait pas l'ancienne version, tout en fibre de verre, qui n'est pas fondamentalement, qui n'était pas du tout habillée de la même façon, parce qu'elle devait répondre à ces fameuses normes de crash. Que aux États-Unis, les voitures doivent supporter un choc de 3 km/h sans être à 1000 mondes. C'est pour ça qu'il y avait ces fameux pare-chocs à suramortisseur.
Bumper.
Tout ça, comme toutes les voitures continuent et
la Porsche 911 ST qui a été lancée avec
tout à fait.
On verra bien. On verra bien, mais
petite
c'est
remarque,
inquiétant quand même.
Petit retour sur ce que tu viens de dire. Je pense que ton affection pour Lotus, vis-à-vis de laquelle j'ai envie de t'emboîter le pas, puisque j'en ai eu quelques-unes et que je les ai infiniment aimées, ces voitures. On avait déjà critiqué, on avait largement évoqué la question de la politique de Lotus vis-à-vis de ses voitures et de ce qu'avait
Son
notamment
futur, ouais,
initié
tout à fait.
Danny Bar quand il est arrivé chez Lotus. On sait aussi qu'il avait recruté énormément des meilleurs experts et des meilleurs artisans dans les divers segments du jeu, c'est-à-dire ceux du design, du réglage de châssis, des divers ingénieurs. Il a recruté chez Ferrari, chez Audi, chez Porsche, pour se faire un staff complètement invraisemblable, ce qui avait abouti à la présentation de 2010 à Paris et qui avait laissé tout le monde perplexe puisqu'il avait présenté une gamme complète de 6 nouveaux modèles
Ouais,
dont on ne sait
exactement.
pas lesquels sortiront véritablement.
On
Là,
avait du
encore
mal
une
à les
fois,
différencier aussi un petit peu quand
oui,
même. Ouais,
parce qu'il
tout
y
à
avait une
fait.
marque stylistique, il y avait un parti pris stylistique qui était ce qu'il était. Aujourd'hui, on voit effectivement qu'avec une Lotus Exige qui est vendue plus de 70 000 euros, 75 000 euros, il arrive en fait avec une voiture, enfin Lotus arrive avec des voitures qui ont doublé de prix, ni plus ni moins. Et avec une proposition qui est fragile, voire faible, face à la concurrence. Et
Tout
c'est
à fait.
notamment le mur auquel se heurte Levora en ce moment en Angleterre, qui même pour les observateurs anglais, qu'il avait élu voiture de l'année en 2009, considère aujourd'hui que même si la proposition et la partition d'une Lotus Evora reste très convaincante, elle n'est pas satisfaisante au regard de la concurrence.
Tout à
C'est
fait.
trop cher. Donc on verra ce que nous réserve l'avenir, mais effectivement, il y a
Et non,
matière à débat.
mais, et ce soir, ça sent le roussi pour les constructeurs britanniques, hein, parce qu'après Bentley, Lotus et une petite partie sur Aston Martin,
Ouais.
j'espère qu'ils vont reprendre un peu du poil de la bête, parce que c'est quand même des marques qu'on apprécie. C'est
Qu'on
quand même
aime, qu'on aime.
un continent assez appréciable pour ça aussi. J'espère qu'ils vont tous reprendre un tout petit peu de poil de la bête, comme
La
je disais.
DS4R maintenant, Benoît,
Ah, la
peut-être.
DS4R. Oh, magnifique. Rien que sur la photo, déjà, c'est splendide. En vrai, c'est splendide. Et Citroën, autant Renault ou ces choses-là, bon, je suis content qu'ils sortent un petit peu la tête de l'eau, mais Citroën, avec ce qu'ils font en termes de véhicules, de stylisme, d'état d'esprit, puis c'est cette marque DS, moi, je voudrais véritablement qu'ils tirent leur épingle du jeu là-dessus. Et là, la DS4 a un problème, c'est qu'elle n'arrive pas à émerger. C'est une voiture très bien fabriquée, très bien finie, et elle n'arrive pas à se démarquer parce qu'elle est un peu plus chère qu'une C4. Et on a du mal à faire la différence. Et donc, du coup, c'est pour ça que la voiture ne fonctionne pas. Mais là, ils ont présenté un concept qui est la DS4 Racing, qui représente tout ce que la foule demandait depuis les premières victoires de Sébastien Loeb. Une Citroën sportive, vraiment sportive, avec un moteur digne de ce nom et une ligne qui tienne le choc face aux canons du genre, avec ce qui est, les canons du genre sont toutes les compactes allemandes, quoi. Et ben moi je dis que c'est la mission accomplie et il faut vite, 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 vite que cette voiture arrive dans les showrooms et sorte sur la rue. La carrosserie, curieusement perchée, la carrosserie de la DS4 à la base, hein, elle est curieusement perchée dans la déclinaison d'origine. On pourrait croire un mini SUV qui fait un peu bizarre d'ailleurs et qui n'est pas forcément élégant. Ben là, elle se retrouve totalement transformée une fois qu'elle est posée sur ses quatre grandes roues et elle se sort parfaitement de l'exercice, d'autant que les stylistes de Citroën ont résisté à la tentation des impadices de carrosserie que j'appellerais moi un peu transformeur. Ils en sont restés à de discrets élargisseurs qui se fondent en une lame avant et un diffuseur SOP pour la catégorie. La teinte gris-mat très tendance concourt à cette impression de sobriété bienvenue. Les vitres noires, bon, bah pour l'instant, enfin dans le stand, cachées à l'intérieur pour l'instant virtuel. Et le capot ne montrait pas le 1,6 litre turbo qui est censé développer 256 chevaux. J'espère sincèrement qu'il va arriver parce que là, ça y est, là, il y aura une véritable légitimité de Citroën par rapport au résultat qu'a fait dans le sport automobile. Et là, ça serait vraiment pour une voiture française, moi, pour moi, un record pour une voiture de série. C'est ce que vante le constructeur au moment de sa présentation. Donc voilà. Donc bon, ils nous ont promis que le concept n'allait pas en rester là. Nous, on l'attend au tournant. On l'attend plutôt dans les virages et dans les tournants. Et si son châssis est à la hauteur, elle devrait, pour moi, faire véritablement un malheur et se positionner véritablement en face d'Audi S3, de une 35i ou des choses comme ça, parce que c'est une belle voiture française.
Ouais. Donc ça a conclu assez bien en fait un bilan de ce salon et même du paysage automobile de l'année 2012 qui montre que il y a un réveil
Bah, il y a un peu,
des marques françaises. Et puis effectivement le tournant qui a été pris avec la marque DS, la ligne DS
La
qui reprenait, qui
DS5.
est près DS3, ensuite DS4, rebondit bien sur son concept, rebondit bien sur son concept avec une proposition qui est hyper séduisante. Ça, c'est vrai que c'est ce qu'on attend depuis super longtemps. On l'a tellement dit. Des voitures qui soient l'expression de la sportivité des marques, les marques françaises, que ce soit en Formule 1, que ce soit en rallye.
On est timide.
Ce qui est tragique, c'est qu'aucune voiture n'est apparue pour manifester, concrétiser la signature sportive de nos grandes marques. Peugeot a sorti la 205 Turbo 16 en 200 exemplaires, dont personne n'a jamais vu un exemplaire sur route, ou peut-être une fois de temps en temps, mais c'était une fois pareil. La Renault 5 Turbo, c'était vraiment une exception majeure. Mais de manière générale, on n'a jamais vu un grand moteur chez Renault, alors que c'est l'un des plus grands motoristes de l'histoire du sport automobile, y compris en Formule 1. Citroën est multiple récidiviste dans la victoire au championnat du monde. On n'a jamais vu une voiture avec un moteur ni de ce nom, alors que la Mégane caracolée, alors qu'elle n'a jamais fait de rallye. Il y a quand même tout un tas de contradictions au bout desquelles il faudrait venir à bout en France. Hein.
On a honte de notre sportivité, de notre passion automobile. On a laissé tout ça à des constructeurs étrangers qui nous donnent le pion maintenant. Et maintenant, à la fois que ce soit dans la sportivité, dans le haut de gamme, il faut qu'on reprenne toute notre légitimité, quoi, malheureusement. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais je pense que Citroën essaye un petit peu de tirer son épingle du jeu avec cette magnifique initiative.
Bon. Benoît, merci pour cette contribution, cette émission qui aura duré un petit peu plus longtemps que prévu.
Exactement.
Mais qui nous aura quand même permis de faire un tour complet. En deux semaines, on aura quand même bien vu ce qu'il était, ce qu'il fallait retenir de Genève, ce que ça nous avait apporté, cette moisson de nouveautés. La prochaine émission, on espère pouvoir la mettre en ligne la semaine prochaine au plus tard, et on évoquera cette fois-ci, certains, on reviendra sur certains des modèles récemment sortis, y compris la F12 Berlinetta. On l'a évoqué tout à l'heure, peut-être aussi la 991. La messe n'était peut-être pas dite, puisque malgré le grand sujet qu'on avait fait la dernière fois, des voix s'élèvent pour contester l'héritage auquel prétend la 991. Il semblerait que des choses se soient perdues dans la transmission de la recette de grand-mère.
Écoute, bien volontiers pour en débattre avec toi, mon ami.
Voilà, on vous remercie tous. Et on vous souhaite une excellente soirée.
Merci, bonne soirée, au revoir.
Au revoir.